Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire, la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction discutée à Genève, et en dossier, nous reviendrons sur les efforts déployés au Burundi face à une possible propagation du virus Ebola. L'ONU célèbre ce 19 août la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette année, près de 132 millions de personnes à travers le monde ont besoin d'aide humanitaire. Alimentation, santé, éducation, protection, les besoins humanitaires sont nombreux et représentent des défis de taille. C'est notamment le cas au Mali, où le manque de financement freine la réponse humanitaire. Les détails avec Tiekoura Goïta de Mikado FM.
Selon OCHA, les secteurs les moins financés sont ceux de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et de la protection. Quant au secteur des abris et des biens non alimentaires, il n'a pas encore reçu de financement sur les 3,8 millions de dollars recherchés à travers le plan de réponse. Pour rappel, 111 000 personnes sont ciblées par le cluster abris et biens non alimentaires au Mali cette année. Dans le centre du pays, plus particulièrement la région de Mopti, les populations continuent de faire face à un accroissement inquiétant d'actes de violence mortelle liés au conflit. Les souffrances des civils dans les localités touchées par les conflits sont en grande partie liées au manque de protection. Durant le premier semestre de l'année, en moyenne 100 civils ont été tués chaque mois dans la région de Mopti. Afin d'assurer la centralité de la protection dans la réponse humanitaire, le Bureau de la coordination humanitaire estime qu'il est crucial de s'atteler durant le deuxième semestre de cette année à porter une attention accrue aux besoins de protection des populations déplacées, tout en approfondissant la réflexion sur les actions de prévention. Justement, concernant ces déplacés, les statistiques indiquent qu'ils sont aujourd'hui au nombre de 147 000, un record jamais atteint depuis 2014.
Les besoins humanitaires sont également élevés en République démocratique du Congo. Selon l'ONU, 12,8 millions de Congolais ont besoin d'aide humanitaire en raison des conflits, des violences et des épidémies de choléra et d'Ebola. Julie Nyololov travaille pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Depuis 6 ans, elle est coordinatrice nationale des clubs d'Imitra en RDC, pour le compte de l'agence onusienne. Au micro d'Anaïs Sautin, elle explique en quoi consiste son travail.
Le club d'Imitra, ce sont les groupes de jeunes, de femmes et d'hommes qui peuvent être mixtes ou non, qui se réunissent régulièrement, ils identifient leurs problèmes et ils essaient de trouver ensemble des solutions pour les résoudre, d'abord avec leurs propres moyens. Et ces clubs d'Imitra sont utilisés parfois pour lutter contre les violences sexuelles ou VIH ou bien violences basées sur les genres. Parfois, c'est pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Parfois, c'est pour contribuer à la paix, à la cohésion sociale, à la cohabitation pacifique entre les ethnies en conflit. Alors, la FAO exécute conjointement avec d'autres agences des Nations Unies des projets dans la zone de Tanganyika où il y a eu récemment des conflits interethniques entre les Twa et les Bantous. Nous, lors des formations, on les invite à faire des activités qui peuvent vraiment matérialiser cette cohésion sociale et cette cohabitation pacifique. Alors, il y a des clubs, par exemple, qui ont décidé de construire une école primaire où le Bantou et les Twa vont envoyer leurs enfants ensemble à l'école et les enfants vont apprendre à cohabiter dès le bas âge. C'est vraiment un bon exemple de cohabitation pacifique.
Durant 2 semaines, la conférence de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, va passer en revue une 50aine de propositions pour mieux lutter contre une criminalité très active. Depuis samedi, la 18e conférence examine les moyens d'élargir et de renforcer les règles du commerce pour le bois, les pêcheries et les animaux de compagnie exotiques ou encore les éléphants. Jérôme Longuet nous en dit plus.
Jusqu'au 28 août, les 183 parties à la CITES vont tenter de renforcer le régime mondial du commerce des animaux et des plantes sauvages sur la base de 56 propositions des États. La secrétaire générale de la CITES, Yvonne Higuero, n'a eu de cesse de rappeler le rôle essentiel de la Convention pour la conservation et l'utilisation durable du capital naturel mondial. En mai, l'évaluation mondiale de la biodiversité et des écosystèmes avait confirmé la disparition rapide des espèces due à la surexploitation des organismes vivants. Pointer du doigt la chasse, la pêche et l'exploitation forestière illégale. Les nouvelles règles soumises à Genève concernent une grande diversité de mammifères, d'oiseaux, d'arbres et autres plantes. 20 d'entre elles veulent répondre à l'engouement croissant pour les animaux de compagnie exotiques que sont les reptiles et les amphibiens. Au cœur des débats figurent aussi le commerce d'espèces de poissons et d'arbres de grande valeur, de même que la protection des éléphants d'Afrique et l'abattage illégal des rhinocéros. Le sort de la vigogne des hauts plateaux andins, de la loutre cendrée d'Asie, de la grue couronnée d'Afrique et de la fauvette à long bec seront examinés. Idem pour les guépards, les lions et les jaguars et les grands singes. Les poissons ne sont pas oubliés, avec les raies et le requin taupe bleu. Enfin, côté flore, citons le cyprès de Moulanje au Malawi, le bois de rose et le baobab.
Retour sur la crise Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les pays limitrophes de la RDC se préparent à affronter d'éventuels cas du virus sur leur territoire. C'est le cas du Burundi, qui a entamé la semaine dernière une campagne de vaccination du personnel de santé au point d'entrée de Gatumba, à la frontière avec la RDC. Le docteur Walter Kazadi est représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Au micro de Christina Silvero, il explique les mesures déployées face à Ebola.
Je peux vous confirmer qu'il y a zéro cas de la maladie à virus Ebola au Burundi jusqu'à présent. Et c'est important de lancer la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola parce que justement, elle fait partie du dispositif de préparation à un éventuel cas au Burundi. Et comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, les pays frontaliers avec la RDC sont de priorité 1. Dont le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud. L'Organisation mondiale de la santé donc a recommandé que les personnels de soins qui sont dans les districts prioritaires pour cette surveillance soient vaccinés préventivement comme mesure additionnelle pour renforcer la préparation à faire face à un éventuel cas suspect. Voilà.
Alors, vous évoquez justement des mesures éventuelles. Donc, ces vaccins représentent une mesure parmi d'autres. Quelles sont les autres mesures en cours ou envisagées?
Oui, c'est une mesure additionnelle. Les autres mesures en cours, c'est d'abord la surveillance au niveau des points d'entrée, au niveau des frontières. Et là, nous avons formé des équipes, nous avons mis en place un système où tous les passagers qui rentrent au Burundi sont screenés pour rechercher la fièvre et les autres éléments qui pourraient porter à un éventuel cas suspect, en particulier ceux qui viennent des zones qui sont actuellement affectées. À part ça, nous avons formé des équipes d'intervention rapide qui sont en stand-by et qui interviennent au cas où il y aurait des alertes. Nous avons eu un certain nombre d'alertes, nous les avons investiguées et les avons testées parce qu'on a installé aussi la capacité de laboratoire pour tester les cas suspects et on a vu que ce n'était pas des cas de la maladie à virus Ebola. Donc, il y a ce dispositif au niveau des frontières. Il y a la capacité de diagnostiquer les cas que nous avons installés dans le Burundi. Donc, on peut tester aujourd'hui au Burundi et dire que c'est pas Ebola. Nous avons installé aussi la capacité de pouvoir référer des échantillons si jamais il s'avérait positif pour des tests de confirmation dans les laboratoires spécialisés. En plus, nous avons pratiquement fini la construction d'un centre de traitement Ebola où on peut prendre en charge les cas si jamais on arrivait à en détecter. Et nous sommes en train de finaliser l'élément laboratoire de ce centre pour qu'on puisse tester sur place in situ. En plus, nous sommes en train de décentraliser les capacités de tester dans certains points stratégiques du Burundi, notamment aux points frontaliers qui sont un peu loin de Bujumbura, pour qu'on puisse tester sur place et activer les équipes d'intervention rapide. Au-delà de ça, il y a toute une coordination qui s'est installée avec les agences des Nations Unies, les ONG, le gouvernement, et nous réunissons régulièrement pour faire un peu le suivi et la mise à jour. Voilà.
L'un des défis avec la riposte à la maladie à virus Ebola, c'est la réception des communautés locales. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui se fait déjà au Burundi par rapport à cette maladie?
Effectivement, c'est l'un des points sur lesquels nous avons travaillé. Oui, il y a des agents de relais communautaires qui ont été formés en surveillance événementielle pour rapporter des cas suspects s'il y en avait. Mais il y a aussi tout un travail de sensibilisation qui s'est fait avec des caravanes mobiles, des messages qui passent à la télévision et dans les radios nationales. Et pour ça, nous travaillons en étroite collaboration avec l'UNICEF, qui est en fait le lead pour ce domaine-là.
Merci beaucoup, Dr Kazadi. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez lancer ou ajouter?
Je n'ai pas de message particulier, sauf que nous continuons à rester vigilants aussi longtemps que la menace de la maladie à virus Ebola est toujours dans la zone. Nous travaillons de concert avec les autorités et tous les partenaires. Nous allons continuer à renforcer les dispositifs et éventuellement être prêts à répondre. Voilà ce que je peux ajouter pour l'instant.
Fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.